Sur A-Block Radio, les secondes pro habiles parlent de liberté avec
Amanda, Tom,
Emma, Julien,
Manon, Léa,
Vincent, Livia,
Mia,
Walter,
L,
I,
B,
E,
R,
T, E.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emma, je suis en compagnie de Léa. Nous sommes les secondes habiles alimentation bio-industrie de laboratoire du lycée Lavacan à Pavie. Pendant une semaine, nous avons préparé diverses interviews et reportages sur le thème de la liberté. Les journées ont été très intéressantes, on a pu découvrir le métier de la radio.
Durant l'émission, vous allez entendre deux reportages. L'un sur une Tunisienne qui s'appelle Fatima et l'autre sur Isabelle de Rive qui est bénévole au planning familial.
Dans un premier temps, nous allons vous faire écouter le premier papier réalisé par Julien qui parle de son envie d'autonomie.
Je ne réfléchis pas vraiment à la liberté parce que, comme je préfère me débrouiller seul, je n'ai pas besoin de me poser cette question. Pourtant, j'ai conscience que je ne suis pas totalement libre, mais dans mon quotidien, je fais des choix et je me donne les moyens de les assumer. J'essaye par exemple de trouver un métier qui me plaît et je sais que si je trouve un apprentissage en boulangerie, je serai plus libre qu'aujourd'hui, j'aurai un salaire et je pourrai payer mon appartement.
Maintenant, je vais vous amener dans la nature avec les papiers de Mia, Manon et Léa.
Quand j'avais 10 ans, j'ai eu la chance de sauter d'une montagne en parapente. Le temps de grimper en voiture m'avait paru une éternité et une fois arrivé en haut, je n'étais plus complètement sûre de vouloir me lancer. Le stress de voir ces gens s'envoler me faisait peur et plus le temps passait et plus mon tour s'approchait. Le moniteur a su me rassurer et c'est alors que nous nous sommes équipés. Au moment de décoller, on m'expliqua que la seule chose que j'avais à faire, c'était de courir. Courir dans les airs encore quelques minutes pour bien se lancer, puis tout simplement apprécier la vue. Une fois en haut, je sentais le vent diriger la voile, j'avais l'impression d'être un oiseau qui se laissait porter par le vent. C'était comme si tous les malheurs du monde s'étaient éloignés et avaient disparu le temps d'un instant. Comme si je pouvais les piétiner. Et jamais je me suis sentie aussi libre que ce jour-là.
L'endroit où je me sens libre, c'est au centre équestre. Quand je vais au centre équestre, que je commence à préparer mon poney, il me tarde déjà d'être dessus. Je le bride, je lui mets le filet. Une fois que je suis dessus et que je galope, j'ai l'impression de ne plus pouvoir arrêter mon poney, que je vais à toute vitesse. Lorsque je sens le vent venir contre moi, je me sens libre. Libre comme un oiseau. Je ne pense plus aux problèmes, je ne pense plus à rien. Je me laisse aller dans le moment présent.
L'été dernier, je suis partie à la mer avec ma famille. C'était une période plutôt difficile dans ma vie. Un jour où je me sentais pas bien, j'ai décidé de sortir pour aller me promener. Je marchais le long de la mer, les pieds dans l'eau, le soleil se couchait. La musique dans mes écouteurs résonnait dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que je me suis sentie libre. J'éprouvais ce sentiment pour la première fois. C'est un moment simple, mais qui symbolisait beaucoup pour moi. Je suis restée longtemps à marcher, je ne pensais plus à rien. Je profitais de ce moment face à cette immense étendue qui se trouvait devant moi. Et c'était pour moi la liberté.
Liberté,
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 liberté.
J'espère qu'on vous a fait voyager. Si vous avez aimé les papiers jusqu'à présent, on vous laisse avec ceux de Tom et Vincent.
Je me sens libre quand je rentre du lycée et que je me dis que j'ai fini ma journée pesante
car là-bas je me sens pas libre, j'ai l'impression d'être sous les ordres de tout le monde et je n'aime pas ça. Arrivé chez moi, je prends mon vélo et je pars en ville en écoutant de la musique. Plus personne ne me parle, j'entends juste la musique qui me détend l'esprit. Pour partir où je veux en ville, me donne encore plus le sentiment de liberté. Quand je me sens libre, je me sens moi-même.
Quand je suis au rugby, je me sens libre, car quand je suis sur le terrain, j'ai le sentiment de tout faire sans que personne ne puisse me dire quelque chose. C'est un peu paradoxal, car il y a quand même un arbitre pour faire respecter les règles. Un jour, quand on jouait contre le TUC et que je jouais encore à l'US Chimon, j'ai pris le ballon et j'ai foncé dans les personnes qu'il y avait en face de moi. Je suis passé pour aller à l'essai. À ce moment-là, j'ai vécu un moment de liberté car personne n'aurait pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout, marquer ce point décisif.
J'espère que vous avez apprécié leur papier. Maintenant, je vais laisser la parole à Manon et Mia qui vont vous présenter leur reportage sur Fatima, une jeune Tunisienne, qui va nous parler de son enfance durant la dictature sous Ben Ali.
Nous sommes allés rencontrer Fatima Bouganmi chez elle. Fatima est une jeune maman tunisienne née en France. Elle a quitté la France à 7 ans et elle a grandi en Tunisie avec ses parents. À 27 ans, elle s'installe en France pour rejoindre l'homme qu'elle aime et fonder une famille.
Durant sa jeunesse en Tunisie, le dictateur Ben Ali a pris le pouvoir et s'est accaparé la richesse du pays. Les habitants étaient privés de liberté. La police exerçait un pouvoir injuste sur les Tunisiens. Fatima a vécu dans un climat de suspicion et de crainte. Elle nous explique ce que vivre dans une dictature signifiait. En 2011, la Tunisie s'est soulevée. Elle nous parle de la libération et du jour où Ben Ali s'est échappé et a quitté le pouvoir.
Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance en Tunisie ?
Beaucoup de souvenirs, une enfance à laquelle je reste quand même très, très attachée, très, très fière. Et le souvenir que je garde, c'est une vie avec beaucoup de monde, une présence de la famille, des voisins, des amis... une vie pas très calme, mais apaisante en même temps.
Selon vous, votre pays était-il une dictature ?
Je vais dire oui. Et je vous explique un petit peu pourquoi. Alors, il y a eu plusieurs phases dans la dictature. Quand j'étais toute petite, il y avait le tout premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba. Et alors c'était un petit peu le père de la nation. C'était le père de la nation parce que pour les Tunisiens, c'était lui qui avait libéré la Tunisie de la colonisation. Ensuite, assez vite, le 7 novembre 87, on s'est réveillé avec une nouvelle. Donc c'était un coup d'État et on a appris que Ben Ali, c'était un président qui était quand même relativement jeune par rapport à l'ancien, et qui nous avait fait des discours en rapport avec la liberté, tout un régime nouveau qui arrivait, mais on a très très vite compris que tout ça c'était juste des paroles dans l'air, que ça soit au niveau de la presse, au niveau de tout le reste, c'était seul Ben Ali qui comptait, tout ce qu'il faisait, tout le pays tournait autour de ce personnage de Ben Ali.
Comment viviez-vous le fait de vivre dans un pays en dictature et comment se déroulait la vie quotidienne dans ces conditions ?
Alors, on s'y fait. Alors, la vie de tous les jours. Alors, on ne pouvait pas faire confiance aux autres parce que souvent dans ce genre de régime, il va y avoir des gens qui sont payés pour faire les rapporteurs. Et petit à petit... Les gens ne se faisaient plus confiance, même entre amis, entre voisins. Mais on avait tellement peur d'être surveillée, qu'on faisait attention à tout.
Qu'aviez-vous le droit de faire et de ne pas faire ?
Alors, réellement, on avait le droit de tout faire, sauf de critiquer Ben Ali et son régime. En fait, j'ai l'impression qu'il ne fallait pas trop penser par rapport à... Penser, se dire « non, nous ne sommes pas dans une démocratie ». Tout nous annonçait qu'on était dans une démocratie, mais réellement, on ne l'était pas.
Qu'avez-vous ressenti en quittant votre pays ?
Beaucoup de tristesse. Et je l'ai ressenti encore plus à partir du moment où ça a commencé à bouger, juste avant la révolution. C'est dur de quitter son pays natal. Hein. Moi, je pense que la Tunisie me manque beaucoup.
Lorsque le président Ben Ali a quitté la Tunisie, lors du printemps arabe en 2011, avez-vous ressenti une certaine libération ?
Je me souviens à l'époque, mon fils qui a maintenant 7 ans et demi était vraiment un petit nourrisson. Et je suivais ça jour par jour. J'avais très très peur. J'avais peur parce que ma maman était là-bas, parce que mes amis, ma famille, et je ne savais pas trop comment ça allait tourner. Et le mot d'ordre, c'était dégage, dégage, dégage. Et de voir ça, c'était, mais moi, je passais mon temps à pleurer ici. Et j'étais vraiment tourmentée parce que ce qui m'avait vraiment retenue, c'est que j'avais un petit garçon et je me disais que si jamais je partais, tous les jours, il y avait quelques morts. Mais je me disais, bon, si jamais j'y allais, que ça tournait encore plus mal, et qu'il m'arrivait un truc, cet enfant, il n'a rien demandé. Et c'est pour ça que j'en devenais malade, parce que j'avais très envie d'y aller, d'être avec mes amis, et qu'on se soutienne tous. Parce que j'ai vraiment vu que c'était l'accumulation d'années de Ben Ali où on avait l'impression d'être libre, mais au fond de nous, on avait un petit peu enfoui cette notion de prison, d'interdire de penser que ce régime nous avait infligé. Et donc... fut le jour où tous les gens étaient sortis dans cette avenue, c'était un vendredi, d'avoir des milliers de personnes ce jour-là dans la rue comme ça, des gens qui étaient sortis, mais c'était extraordinaire. Des gens qui disaient « ça y est, on n'a plus peur maintenant ». Et l'après-midi, donc on apprend que Ben Ali et sa famille se sont échappés. J'en suis tombée malade, au fait, de cette révolution. Malade d'avoir été absente, malade de ne pas avoir participé à tout ça. J'en avais même honte, je me suis dit que j'étais lâche, que j'aurais dû le faire. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu la révolution à distance et vraiment de l'intérieur, quoi. Et après, chaque fois que je voyais quelque chose en rapport avec ça, je pleurais parce que j'étais fière, parce que j'étais contente. Parce que je m'en voulais de ne pas avoir été là-bas.
Être libre,
c'est aussi
ne pas agir
en fonction du regard d'autrui.
Nous vous livrons encore quelques papiers qui parlent des difficultés liées à l'éloignement. Écoutez Amanda et Emma.
Je crois qu'avant de conquérir la liberté, il faut d'abord croire qu'elle existe. Pour moi, on est libre de penser et respecter les autres. Mais il y a aussi une forme toute simple de liberté. La liberté d'être près des gens qu'on aime. C'est pourquoi je ne me sens pas libre quand je ne peux pas être avec ma famille et mes amis au Brésil. Le problème, c'est la distance. C'est tellement loin et compliqué d'aller chez eux. Le problème de la longue distance est de vivre avec le sentiment de manque. La liberté pour moi serait de pouvoir vraiment les voir quand je veux, à tout moment.
Pour moi, la
liberté, c'est de faire ce que tu veux ou même de voir des personnes quand tu le souhaites. Mais ce n'est pas mon cas, je ne suis pas libre de ça. Mes parents sont séparés, je vis avec ma mère, mais mon père habite assez loin. Je ne le vois pas beaucoup à cause de la distance ou même de son travail. Comme il habite en Suisse, je dois prendre l'avion. Quand j'arrive à l'aéroport de Toulouse, je suis toute excitée et de très bonne humeur. Quand l'avion se pose, je prends ma valise et je me dirige droit vers la sortie dès que je peux. Dès que je le vois, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'essaye de passer le plus de temps avec lui et de profiter de chaque moment. Je pense ne pas être la seule concernée par ce sentiment douloureux d'être éloignée d'un parent ou d'un ami qui habite loin. Pour ma part, je ne serai jamais complètement libre tant que je ne pourrai pas voir mon père aussi souvent que je le voudrais.
Pour ce dernier reportage, nous allons vous présenter Isabelle Derive, qui va nous parler du planning familial, du mariage forcé et de la liberté. On vous laisse avec Tom et Julien.
Nous sommes partis à la rencontre d'Isabelle Derive, militante au mouvement français, pour le planning familial qui nous a accueillis chez elle.
Nous l'avons interviewée au sujet du mariage forcé et du droit des femmes à choisir librement leur vie.
Nous avons beaucoup travaillé sur la question du mariage forcé depuis les années 2000, où cette question face à des situations vraiment horribles de certaines jeunes filles en particulier a émergé sur la place publique et mobilisé pas mal d'associations, en particulier de défense des femmes, pour trouver des solutions et aussi avec le législateur pouvoir modifier les lois afin de faire progresser leur protection.
Est-ce que le planning familial s'intéresse au problème de mariage forcé ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une question qui est restée éloignée pendant longtemps des préoccupations parce qu'elle n'était pas visible. Comme les autres formes de violence, on a tout fait pour le rattacher à l'intérieur d'une famille, d'une communauté, d'un problème interpersonnel, alors que c'est avant tout une problématique de domination et de violence exercée par un groupe sur un être humain. Donc, on a mis du temps à réaliser que ça existait encore, parce que les mariages forcés, ça existe partout dans le monde, ça existait beaucoup en France. On unissait sa fille ou son fils à la fille ou le fils du voisin pour agrandir les terres de la propriété. Les princes et les princesses qui font la une des magazines People subissent clairement des mariages qu'ils n'ont pas choisis. Ça fait partie d'une forme de domination qui existe depuis longtemps, mais qu'on avait un peu oublié en Occident parce qu'on s'était centré sur d'autres formes de lutte. Donc, dans les années 2000, il y a eu beaucoup de cas absolument dramatiques de situations, surtout de femmes, mais pas que, subissant des mariages forcés, donc subissant forcément des viols. Puis une violence psychologique, on pourra le redétailler peut-être un peu plus tard, absolument terrible, physique aussi souvent. Et il a fallu faire face à ces situations, regarder la législation. Pendant longtemps, le mariage en France était autorisé à 15 ans pour les filles, à 18 ans pour les garçons. Enfin, tout un tas de choses qu'on n'avait pas regardées de bien près depuis longtemps. Et là, c'est ça aussi l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est les gens sur le terrain qui sont arrivés avec ces situations, qui nous ont forcés à réfléchir à tout ça et essayer de mettre en place des outils pour avancer.
Avez-vous déjà aidé des femmes qui étaient dans ce cas ?
Alors, j'ai déjà été relais dans ces stratégies de mise en protection de femmes victimes de ces violences, de risques de mariage forcé. Alors ici, on a un département rural. Ça bouge un peu parce que pendant ces 10 dernières années, le Gers s'est enrichi de l'arrivée de beaucoup de personnes de communautés différentes et d'origines différentes. Mais pendant longtemps, on n'a pas été sollicité très directement par des victimes de mariage forcé directement dans le Gers. Par contre, du coup, on a été un territoire d'exil forcé et de protection pour des jeunes filles qui arrivaient de grandes villes à l'extérieur et qui venaient en particulier sur des établissements scolaires qui bénéficiaient d'un internat dans lequel il y avait encore de la place pour pouvoir les mettre à l'abri dans le secret d'un mariage forcé.
Par quel moyen peut-on aider une personne qui est concernée ?
Alors, d'abord, c'est pouvoir parler de cette question. C'est-à-dire de pouvoir avoir conscience que ça existe toujours et pouvoir se questionner sur le fait qu'est-ce que c'est qu'un mariage forcé. Pour beaucoup, dans la sphère des travailleurs sociaux ou de la justice ou des agents de l'état civil, même si beaucoup de ces mariages sont contractés à l'étranger ou de manière plus traditionnelle qu'officielle, on va minimiser les faits sous le prisme de références culturelles différentes, d'affaires intrafamiliales, sans vouloir regarder la réalité. La réalité d'un mariage forcé, c'est un viol éventuellement quotidien. Bien évidemment, personne qui aura été mariée de manière forcée, le mariage, c'est fait pour que la communauté se reproduise. C'est fait pour une transmission d'un patrimoine, de richesse, d'un nom, etc. Donc, les femmes sont faites et elles sont mariées pour ça, hein, pour faire des enfants. Donc, faire des enfants, ça veut dire des rapports sexuels. C'est juste une évidence. On n'a jamais envie de le voir de cette manière-là, y compris les familles, les parents, en particulier des filles qu'on va marier contre leur gré. Si on leur disait « Est-ce que vous voulez que votre fille soit violée ?» Bien sûr, hein, dirait non. Mais là, dans le cadre d'un mariage forcé, on ne va pas se poser la question de la violence. Et pourtant, elle est forcément, obligatoirement omniprésente. Imaginez-vous, Livia, demain, dans un lit, avec un monsieur qui a le double de votre âge, que vous n'avez jamais vu, et qui n'a aucun scrupule à faire de vous ce qu'il veut, puisque vous êtes sa femme. Ce sont vos parents qui vous ont mis là, pour votre bien. Vos frères et vos sœurs n'osent pas y penser. Personne n'ose y penser. Et vous devez vous réjouir, parce que enfin vous avez votre place de femme. Elle me dit non. Elle me dit non et elle a raison. Mais elle me dit non parce qu'elle est en capacité de pouvoir concevoir autre chose comme avenir. Concevoir autre chose pour sa vie, pour sa sexualité, pour son épanouissement, peut-être même pour sa maternité si elle le désire un jour. Mais rien n'est obligatoire, bien entendu. Mais pour pouvoir se dire ce non, il faut pouvoir concevoir un autre avenir en tant que femme. Et ça déjà, c'est pas forcément facile. De questionner cette évidence, depuis qu'on est toute petite, un jour mon prince viendra, il est là. Hein. Ah, il ressemble pas exactement au prince charmant, mais pour un prince charmant, il faut aller au rayon biscuiterie d'un supermarché.
Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté.
Pour finir, les derniers témoignages de Walter et Livia, qui parlent de leur passion.
Je me sens libre quand je suis avec ceux que j'aime, quand je vis mes passions. Je me sens libre quand je me laisse emporter par mon imagination et mes rêves. Je me sens libre quand je joue à l'ordi ou à mes consoles, quand je lis des mangas, que je regarde des animés, que je poursuis mes propres histoires, mes règles, mes choix et mes émotions selon ce que je joue, regarde ou lis. Je me sens libre quand je suis avec ma famille, mes amis et celles que j'aime. Je me sens libre de rester avec tout ce que j'apprécie, libre de leur dire ce que je pense et partager mes sentiments sans être jugé, libre d'être accepté comme je suis vraiment.
Le moment où le mot liberté semble prendre son sens est pour mon cas lorsque je dessine. Le monde qui m'entoure semble s'évanouir alors que je reste dans ma bulle d'imagination, mon esprit naviguant dans cet océan de créatures ou personnages imaginaires dont mon crayon dessine les courbes, les efface lorsque le résultat me déplaît, l'enlevant au passage de mon bestiaire. Lorsque mon crayon est entre mes doigts, je sens de grandes ailes me pousser dans le dos. Peut-être est-ce elles qui me font m'envoler vers ce monde fictif et merveilleux où l'imagination est maître, le monde réel se détachant de celui-ci. Le dessin, la peinture sont ma paire d'ailes. Grâce à elles, un profond sentiment de liberté m'envahit.
Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté.
Nous vous remercions, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé avec nous et que vous avez compris notre vision de la liberté. Pour finir, nous tenons aussi à remercier Fatima Boukdami, Isabelle Derive, Madame Zoria, Monsieur Rouziès, Monsieur Argibaud et Madame Robert. Nous espérons vous retrouver bientôt sur ablogradio.fr.
C'était les secondes pro habiles en liberté sur
ablogradio.fr.